Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9 FM et graphite.net. Je suis Stéphane et je suis donc en studio avec Sofia, Marine, Elodie, Morgane et Jean-Baptiste. Bonjour à vous toutes et tous.
Bonjour.
Donc cet après-midi, on va vous présenter les projets menés dans le cadre d'un cours de l'Université de Technologie de Compiègne. L'intitulé de ce cours, c'est « Low-techisation et numérique ». Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner les grandes lignes, eh bien, l'objectif de ce cours, c'est de concevoir des produits ou des services avec comme visée des paramètres, des objectifs socio-environnementaux. En conception classique, on s'attache plus en général à des valeurs comme les coûts et les délais en ingénierie traditionnelle. Eh bien ici, on va explorer d'autres valeurs comme la soutenabilité environnementale, la responsabilité sociale ou encore la convivialité technique. Le cours est structuré autour d'un projet qui dure tout le semestre. Les étudiants travaillent depuis 4 mois sur ce projet et aujourd'hui, eh bien, on va avoir 5 présentations de 5 groupes qui vont venir nous présenter chacun de ces groupes, ce qu'ils ont réalisé pendant ces 4 mois. Alors je précise tout de suite, ce sont des projets de conception, il n'y a pas de réalisation concrète, mais en revanche, eh bien, tout ce qui a été conçu est disponible sur le web, et donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ce que les étudiants et étudiantes ont produit sur le site lonum.fr. Mais donc, on va attaquer avec la première présentation de projet. Il s'agit du projet Locyclopédia. Locyclopédia, c'est donc une application web dédiée à la publication de projets low-techisants, ouverte à tous et conçue pour être décentralisée. Eh bien, pour nous présenter les grandes lignes du projet, je vais commencer par passer la parole à Jean-Baptiste.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste Le Floch, le suiveur de ce projet étudiant. Je suis doctorant sur la low-tech et génie industriel. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Locyclopédia, qui était réalisé dans ce cours IS03 low-techisation et numérique. Donc Locyclopédia est un projet qui vise à créer une application web dédiée à la publication de projets low-tech par des usagers de tous horizons. Le but du projet est que les usagers puissent collaborer, échanger sur la réalisation de projets low-tech ou low-techisants. Ce que nous entendons par projet low-tech, c'est un projet donc, réalisé par un individu seul ou un collectif qui répond à 3 critères. Une appropriation par le plus grand nombre pour un moindre coût. Second critère, des principes de fonctionnement pouvant être appréhendés simplement par une large part de la population. Et enfin, troisième critère, des objets fabricables et ou réparables par ses propres moyens ou localement. Comme ça, vous à la maison, vous pourrez même contribuer en postant vos propres tutos et réalisations. Une autre définition sur laquelle nous nous sommes appuyés est celle de la low-tech provenant du low-tech lab. Selon eux, donc, le terme low-tech permet de qualifier, je cite, des objets, des techniques, des savoir-faire, etc., qui intègrent la technologie selon 3 grands principes, donc utile, accessible et durable. Donc, le partage des connaissances est un point central dans la low-tech, comme le laisse entendre le terme accessible. Et ce projet part de la problématique, comment partager les connaissances dans une communauté de pratiques low-tech. Aujourd'hui, on peut retrouver des tutos de projets low-tech sur le site du Low-Tech Lab, ou encore sur des groupes Facebook ou des sites web gérés par des associations ou des individus. La documentation de la low-tech dégage aussi des aspects particuliers. En effet, comme l'a rapporté Morgan Meyer dans son article de 2022, qui s'intitule « Expérimenter et rendre désirables les low-tech, une pragmatique de la documentation », les projets low-tech sont documentés tant sur le plan technique, donc avec les matériaux, les outils requis, mais aussi sur le plan de l'expérience plus personnelle qui a été vécue lors de la réalisation de ce projet. Donc cette expérience soit positive ou négative. Il en ressort donc une importance donnée à l'humain, à la collaboration, mais aussi de manière plus générale dans la low-tech, une recherche de juste échelle dans les outils et les moyens mobilisés. Ce projet, Locyclopédia, se présente comme une solution de partage de connaissances pour les projets low-tech, en s'inspirant de logiques similaires à celles de Wikipédia ou des logiciels libres et décentralisés. Donc pour parvenir à ce résultat, cet outil web a été conçu en suivant une démarche de low-techisation, c'est-à-dire en intégrant les valeurs de la low-tech dans cet outil, pour les pratiquants de la low-tech. Cela s'est organisé avec plusieurs itérations d'une semaine en suivant les étapes suivantes. D'abord un état de l'art, voir ce qui se fait, idéation, maquettage, évaluation et enfin publication de nos travaux. Maintenant je passe la parole à Elodie.
Merci. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important que tout le monde puisse comprendre les notions qu'on va aborder. Pour cela, je vais vous présenter quelques sources qui ont permis de commencer l'élaboration du projet. Dans Introduction aux faits divers, l'univers des médias sociaux libres, décentralisés et fédérés, publié en 2022 sur librecours.net, Audrey Gaylou explique ce que sont les médias sociaux libres, décentralisés et fédérés. Donc un média centralisé est un média qui décide de tout, de façon unilatérale. Un média propriétaire, quant à lui, appartient à une entité privée avec un code source non libre. L'encyclopédia est le contraire de ces deux notions, c'est-à-dire qu'elle est décentralisée et libre. La décentralisation implique une archipélisation du réseau qui est une forme de fragmentation en plusieurs parties, qu'on appelle instance. Alors, une instance, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une structure indépendante gérée par une communauté. Sa capacité de développement repose donc sur la coopération et mutualisation des ressources de cette communauté. La création d'instances se fait en reprenant le code source de l'instance initiale que nous avons nommé l'encyclopédia.origin. Les instances peuvent se regrouper entre elles, ce qui forme une fédération. Alors ces notions peuvent nous embrouiller assez vite, mais pas d'inquiétude, nous aussi, on a mis du temps à bien comprendre toutes ces notions. Nous avons trouvé un petit extrait de l'émission Libre à vous sur le fait divers par Audrey Guélou et Thomas Citarel et publié le 18 avril 2023 sur la plateforme mediaapril.org.
La partie la fédération de la gouvernance, le fait que, contrairement à une configuration centralisée où on a effectivement une personne, une organisation qui va contrôler l'ensemble du réseau, qui va définir les règles de communication pour tout le monde, et bien là, dans une fédération, et bien chaque personne qui possède une partie du réseau, qui possède un média social du fait divers, et bien va gérer ce média social-là de façon indépendante, de façon autonome, sans pour autant être isolé. C'est-à-dire que voilà, on a sa portion du fait divers où on va pouvoir voilà, définir une ligne éditoriale, définir des règles d'utilisation. Mais pour autant, on n'est pas isolé sur son île. On va pouvoir aussi communiquer avec d'autres îles. C'est l'intérêt de la fédération.
Alors, un de nos axes de travail a donc été de réfléchir aux possibilités d'échange entre instances, à la modération et aux administrations de chaque instance. Une autre notion clé est celle de commun. En effet, qui dit logiciel libre dit ressources communes, d'autant plus que les projets qui sont postés sont accessibles à tous. Mais alors, qu'est-ce qu'un commun ? C'est un terme qui est très bien expliqué par Elinor Ostrom, qui a participé à forger ce concept, dans une émission de Radio France nommée « La bibliothèque idéale de l'écho ». Dans un épisode consacré aux communs, publié le 28 décembre 2018.
Les communs, c'est chez Ostrom ce qu'on pourrait appeler des community-based communs, c'est-à-dire c'est des communs qui sont basés sur des communautés hein, qui en bénéficient, qui sont capables de le gérer, dans le respect de l'écologie, dans le respect des communautés environnantes, ces points sont essentiels. Alors que les biens communs font référence, je pense dans la pensée d'Ostrom et plus généralement, font référence à ce qu'on pourrait appeler des très grands communs, c'est-à-dire qui ont une dimension universelle, le climat, l'atmosphère, etc. Alors là, il y a une objectivité du caractère commun de ces biens, mais par rapport au commun community-based, basé sur des communautés, ils ne sont pas gérés ou très mal gérés. Si les biens sont gérés suivant des logiques de marché, ce ne sont pas des communs. Il y a plus l'ombre d'un doute là-dessus. Et les biens communs eux-mêmes, c'est très clair, ne peuvent pas être logés dans des strictes logiques de marché et nécessitent des formes de gouvernement qu'elle appelle multicentriques, où on associe différentes instances, communautés, niveaux, etc., pour arriver à gérer le bien commun.
Donc, pour compléter cet extrait, je vais vous parler rapidement des trois piliers qui constituent les communs et qui sont définis par Benjamin Coria, que nous venons d'entendre, dans un texte intitulé « Qu'est-ce qu'un commun ?», publié en 2015 sur France Attac. Donc, premièrement, la ressource mise en commun est partagée. Dans notre cas, ce sont des ressources, les projets postés, mais aussi le code de la première instance, l'encyclopédia.origin. En deuxième, les règles de partage et son accessibilité. Ces règles sont propres à la modération appliquée dans chaque instance. Enfin, le mode de gouvernance de la ressource, c'est-à-dire comment cette ressource est gérée, ici grâce à la modération mise en place. Je vais maintenant laisser la parole à Marine, qui va vous faire une présentation des fonctions de l'application web.
Bonjour, donc je vais détailler le fonctionnement de notre instance l'Encyclopédia Origin. Donc c'est celle que nous proposons et qui rassemble nos idées. Donc, lors de la première utilisation, vous aurez accès à tout le contenu disponible, soit en cliquant sur les propositions de projet de la page d'accueil, soit en cherchant dans la barre de recherche, soit en cherchant dans l'annuaire. Donc pour trouver le projet qui vous intéresse, vous pourrez utiliser un système de filtres. Donc pour les amateurs qui auraient peur de se lancer, les projets sont classés par niveau de difficulté allant de 1 à 5, pour que chacun trouve de quoi faire à son niveau. Et pour les enseignantes et enseignants, vous trouverez une application adaptée pour réaliser des projets avec vos élèves à l'école. En ouvrant un projet, vous tombez sur une image accompagnant le titre. En plus de la description, vous aurez un plan détaillé vous permettant de réaliser le projet étape par étape. Vous trouverez le matériel et les outils nécessaires, parfois avec un tuto. S'il l'a décidé, l'auteur peut aussi vous partager ses motivations. Si vous souhaitez à présent partager votre savoir-faire, vous pouvez alors créer un compte qui vous permettra de déposer un projet, d'accéder au forum, de laisser des commentaires et des avis. Alors pour poster, il suffit de cliquer sur l'icône « Déposer mon projet », puis de remplir un formulaire détaillé. Vous pouvez aussi intégrer les projets que vous lisez à des catégories de favoris que vous créez vous-même et que vous pouvez partager avec vos amis. À travers les forums et les espaces commentaires, vous êtes encouragé à interagir avec les autres, à collaborer sur des projets en commun et donner votre avis. Vous pouvez aussi modifier un projet existant pour préciser des informations. Tout cela sera contrôlé et régi par la modération. Pour concevoir notre application web, nous avons formulé nos idées sous forme d'histoire. Donc voici un court extrait à propos des forums. Une fois arrivé sur le forum, Yann a la possibilité d'aller sur plusieurs onglets. Le général de la plateforme, celui qu'il a créé lui-même autour de son projet et dont il est le modérateur, plusieurs canaux autour d'autres projets, d'autres canaux ayant uniquement pour but de parler avec d'autres amateurs du low-tech sans forcément être autour d'un projet, et beaucoup d'autres à sujets variés. Il choisit de poster son message dans le canal « Projet publié », dans lequel il écrit qu'il a publié un nouveau projet et qu'il encourage tout le monde à aller le voir. Il mentionne sa voisine car elle l'a beaucoup aidé au cours de la réalisation. Donc les forums permettent l'échange et le partage du savoir, nous rapprochant des valeurs de convivialité et de partage, en plus de relever et rectifier les erreurs présentes. Le Cyclopédia Origine peut servir de base aux usagers qui souhaitent créer leur propre instance, et je vais laisser Morgane vous parler de la création de ces instances.
Bonjour. Alors, le Cyclopédia est un projet donc sous licence CC BY-SA, donc c'est-à-dire disposant d'une application web libre. Donc son contenu et sa structure, c'est-à-dire le code, sont libres. Donc de ce fait, une personne peut reprendre le contenu et le contenant et le réutiliser comme elle le souhaite, tant qu'elle crédite les auteurs, c'est-à-dire nous. En se basant sur ce principe, nous avons axé donc le fonctionnement de l'application vers un modèle dit décentralisé. Donc Elodie vous l'a expliqué un peu plus tôt. Donc l'Encyclopédia, ce ne sera pas une unique entité utilisée partout à grande échelle, mais un rassemblement d'instances axées sur le partage de projets low-tech, agissant à une échelle plus locale et gérée par les communautés. Donc, comme défini par Audrey Guélou dans l'extrait qu'on a précédemment écouté, une instance, c'est une structure indépendante et autonome dont la capacité de développement repose sur la coopération et la mutualisation des ressources de la communauté en charge de sa gestion. Et ces communautés, elles auront la possibilité de construire un réseau en liant les instances les unes aux autres. Et dans le cas de notre instance modèle, donc l'Encyclopédia Origine, on a établi une charte regroupant quelques conditions pour pouvoir être en lien avec elle. Parmi ces conditions, on peut retrouver la nécessité de disposer d'une modération, d'un contenu en accès libre ou de disposer d'une base de données avec une organisation très similaire à celle de notre instance. Alors, concernant ce point, en fait, il s'agit de faciliter la mise en réseau des différentes bases de données des instances qui donc se sont connectées volontairement entre elles. Ça permet la construction d'un savoir commun intelligible et accessible à tous. D'ailleurs, notre instance modèle disposera d'un onglet portail regroupant toutes les instances existantes qui sont connectées à elle. De ce fait, en fait, l'usager aura un accès plus direct pour trouver d'autres instances. Et les plus petites communautés pourront profiter de la visibilité des plus grosses pour se faire connaître. Donc, je vais vous proposer de vous lire une petite histoire pour un peu mieux comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Donc, une personne souhaite créer sa propre instance de l'Encyclopédia, car elle n'aime pas beaucoup l'interface du site, mais elle souhaite développer une instance plus propre à la montagne, où elle habite. Il lui suffit donc de copier le code source, puisqu'il est libre. Elle peut désormais gérer sa propre modération, son propre formulaire et sa propre interface. Pour chacune de nos idées, durant le projet, nous avons analysé les points positifs et négatifs qu'elles entraînent, les leviers pour les mettre en place et les tensions que ça peut engendrer. Et donc, je vais laisser la parole à Sofia, qui va vous expliquer un peu plus ce point.
Bonjour à tous. En effet, pour chaque fonctionnalité, nous avons essayé d'analyser leur impact sur notre application web. Par exemple, pour l'histoire que Morgane vient de vous raconter, nous pourrons observer une meilleure convivialité, car les personnes qui le souhaitent peuvent créer leurs propres instances et donc être autonomes, avoir leurs propres copies, les utiliser comme elles le souhaitent, avec leurs propres règles, les modifier, etc. Nous pouvons aussi noter que cette idée contribue à la valeur de responsabilité et d'utilité, car les projets que permettent de gérer l'Encyclopédia permettent à chacun de disposer de plus facilement d'objets qui adressent des besoins assez fondamentaux, comme se nourrir ou se chauffer. Il existe aussi des tensions avec nos valeurs et nos objectifs. Dans le cas d'un modèle décentralisé, la création de nombreuses instances peut limiter le partage et la circulation des informations. En effet, pour échanger leurs connaissances, les instances doivent se lier. Or, l'augmentation de leur nombre peut rendre difficile leur entente et leur communication. Alors, nous avons aussi étudié les effets de l'Encyclopédia dans sa globalité à l'aide de plusieurs outils. L'un de ces outils est celui du carré du soin, qui est inspiré des travaux de Xavier Guchet, qui est un philosophe et professeur dans notre école à l'UTC. Il consiste à prendre en compte quatre catégories: considérer les humains, s'insérer dans la nature, rechercher la connaissance et susciter le débat. Pour chacune, nous avons réfléchi aux impacts positifs comme négatifs de notre application. Pour notre projet, nous nous rendons compte que nous nous insérons plutôt bien dans la catégorie considération des humains, avec la création d'une communauté, la diversité des visions et des valeurs, leur transmission, ou encore parce qu'elle permet de reprendre en main la technique en construisant et réparant soi-même des objets. Au contraire, nous remarquons que nous avons plus de mal avec l'insertion dans la nature, car même si notre volonté est de la protéger, nous ne pouvons pas toujours nous rendre compte des impacts des projets postés. On peut prendre l'exemple du frigo. En tentant de réparer un frigo, en fait, on va libérer des gaz à effet de serre. De plus, notre projet fait la promotion de services technologiques et numériques consommateurs, comme les ordinateurs, les serveurs et d'autres. À l'aide d'un autre outil, nous avons réfléchi à quelques exemples d'effets rebonds, comme par exemple le fait qu'en étant enthousiaste et que l'on souhaite faire plein de projets, on finisse par en réaliser des peu utiles, ce qui pousse à la surconsommation. C'est un exemple d'effet indirect non souhaité. On souhaite réduire un paramètre, ici la consommation d'objets nouveaux, et finalement on se retrouve à avoir un effet annulé, voire inversé. Finalement, on consomme plus d'objets d'une autre nature. Bien sûr, ces effets peuvent aussi être positifs. En effet, en lisant les projets des autres et en parlant entre eux, nous pouvons pousser à une plus grande créativité. Ou encore, en réalisant par soi-même des objets, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'entraîne leur construction, s'attacher plus à eux et peut-être s'engager dans une démarche visant à stopper la surconsommation pour privilégier la réparation et le recyclage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous allons maintenant passer à une partie de questions-réponses.
Merci à toutes les cinq pour cette présentation de votre projet. Alors, je note deux, trois points que vous avez introduits, hein, le rapport entre la notion de low-tech, la documentation et le partage d'expérience. Je crois que c'était assez intéressant. On a vu également le concept de commun que vous avez abordé, des choses qu'on doit gérer ensemble en communauté. Et puis également, vous nous avez parlé de la juste échelle pour gérer un certain nombre de, pour gérer ce type de projet. Et vous l'avez mis en relation avec la notion d'instance et de fédération. Alors à partir de là, il y a un certain nombre de questions qui nous ont été posées par notamment vos collègues sur notre canal Mattermost. Peut-être une première question qui est liée à une faiblesse en quelque sorte potentielle de votre projet que vous avez relevé vous-même. Qu'est-ce qui se passe si deux personnes en fait proposent le même projet? Du coup, si on a avec le système d'instances comme ça un peu éparpillées, eh bien, on pourrait se retrouver avec de la duplication d'informations. Donc, comment est-ce que vous avez envisagé un petit peu ce cas-là?
Alors oui, on y a pensé dans la phase de maquettage et on a prévu une fonctionnalité dans l'application web, c'est que si les instances elles sont reliées entre elles, au moment où l'usager va finir de décrire son projet, en fait l'application va lui proposer en fonction donc des thématiques qu'il a rentrées préalablement des projets similaires, donc l'usager va pouvoir les consulter. Regarder si ça correspond à ce qu'il a dit, si en fait il a dit la même chose. Et si c'est le cas, alors soit il peut lier son projet au projet qui est déjà existant dans une autre version, ou alors il peut le fusionner ou le compléter s'il voit qu'il y a des axes qui n'ont pas du tout été approfondis dans sa démarche. Donc c'est possible. Ou alors il peut décider de tout simplement ne pas faire ça et juste avoir un duplicat. Parce okay. Je pense que c'est différent.
Ok, mais donc l'intérêt du lien, c'est qu'on peut quand même conserver de la diversité, parce que finalement, même si c'est le même objet, on peut avoir un peu des points de vue différents, comme vous avez dit, ça peut être aussi des expériences différentes qui vont se consolider. C'était une question d'Evan, on a maintenant une question d'Emilie. qui est liée à la modération. Alors, vous avez pas mal insisté sur, sur ce terme. Peut-être vous pouvez nous en dire juste un ou deux mots, nous donner un petit exemple et nous expliquer voilà, ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'assez classique. Et puis ensuite, peut-être nous préciser un peu, bah, par exemple, qui seraient les modérateurs dans votre application, à partir de quelles règles, voilà, quel type de problème vous avez un peu imaginé, quoi, par exemple.
Alors, la modération est un point sur lequel on a beaucoup réfléchi aussi. Donc, on a surtout réfléchi dans le cas donc, de notre instance, parce qu'en fait, elle va être propre à chaque instance. Dans notre cas, il y aurait deux types de modération. Donc, tout d'abord, une modération automatique sur les espaces un peu communs, donc les forums, les commentaires, par rapport aux informations qui sont données. Donc, qui, par exemple, qui va détecter des insultes ou des choses comme ça pour les supprimer. Il y aura aussi une modération bénévole. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les projets, avant d'être postés directement, vont être vérifiés par une communauté donc, de bénévoles modérateurs. Pour checker si les projets sont effectivement pertinents ou pas trop dangereux. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un peu un tri des informations.
Ok, mais donc du coup les modérateurs, c'est qui sur chaque instance en fait, chaque instance détermine un peu ses modérateurs.
Oui, voilà. En fait la modération sera propre à chaque instance, donc définie dans la charte. Et en fonction de comment elle est définie, en tout cas nous dans notre cas, ce sera des modérateurs bénévoles qui vont s'occuper de cela.
Ok, et donc la charte, elle, elle est commune à toutes les instances qui vont se fédérer entre elles, ou est-ce que c'est pareil, chaque instance qui définit un peu ses, ses règles ?
Alors pour les chartes, chaque instance a sa charte, et si elles veulent se réunir entre elles, alors il y aura la charte de la fédération à laquelle, du coup, elles devront s'adapter.
Ok, bah merci bien. Une autre question de Mathieu. Imaginons que j'ai réalisé un projet, que j'ai envie de le partager sur, sur l'Encyclopédia. En fait, comment est-ce que je m'assure en quelque sorte que bah, j'ai bien moi-même les compétences pour proposer ce projet ? Je ne sais pas si c'est un cas de figure que vous avez envisagé. Est-ce que je peux auto-évaluer en quelque sorte si je suis en capacité de présenter ça ? Est-ce que je peux donner l'avis est-ce que je peux demander, pardon, l'avis à d'autres personnes ? Et peut-être aussi que ça, c'est en lien avec une autre question de Pauline qui nous demande si la plateforme, du coup je vous fais un package avec, avec tout ça, qui nous demande si la plateforme peut être proposée comme outil d'enseignement. En fait, si à la longue, ça peut devenir un outil pédagogique. Alors peut-être je fais un lien entre les deux questions parce que je me dis que pour que ça devienne un outil pédagogique, il faut aussi en quelque sorte que les projets soient d'une qualité suffisante. Alors vous avez parlé un peu en, en aval de la question de la modération, mais on pourrait se dire en amont aussi, bah voilà, moi si je veux proposer un projet, ce serait pas mal que je sache déjà que c'est un projet qui vaut le coup en quelque sorte. Et du coup, faire le lien avec la question de l'enseignement. Allez-y.
Alors, notre but, c'est vraiment que chacun puisse poster, donc qu'il ne se dise pas trop « Ah, mon projet, il vaut rien ». Parce que justement, on sait que derrière, c'est fait pour que d'autres personnes puissent repasser dessus, le remodifier et le compléter. Et justement, on peut demander, quand on crée un projet, beaucoup d'aide sur les forums. Parce qu'il y a toute une communauté qui est là autour pour nous aider. Et au niveau des projets pour l'école, donc on a dit qu'il y aura une interface scolaire spécifique. Et donc, en fait, ces projets scolaires, pour être postés, ils doivent répondre à une charte avec certaines règles pour qu'on s'assure qu'ils soient adaptés aux enfants, que ça va être adapté à une école et que ça peut être réalisable dans ces conditions.
Ok, bah merci, merci à tous les cinq. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en, en lien avec votre projet dont, dont on n'aurait pas parlé, non ? Vas-y, vas-y.
Ben, juste du coup, si le projet vous intéresse, sachez qu'on a un site web que vous pouvez retrouver directement en tapant l'Encyclopédia sur n'importe quel moteur de recherche. Ce sera le premier lien. Et sinon, on a aussi un mastodonte, pareil, en tapant l'Encyclopédia sur un moteur de recherche. Donc n'hésitez pas à, à venir nous follow parce qu'on a posté quelques, quelques trucs intéressants.
Ok, bah écoute, super de cette précision. Et effectivement, si vous voulez retrouver les détails du projet et que ça ne marche pas directement avec votre moteur de recherche, sinon vous pouvez passer par l'onum.fr. À partir de là, vous aurez accès à tous les projets. Donc, c'était le projet L'Encyclopédia qui nous était présenté donc, par Sofia, Marine, Elodie, Morgane et Jean-Baptiste. On va rendre un peu la musique à Graphite ou Graphite à la musique. Et puis, on se retrouvera vers 14h à peu près pour un second projet, le projet SOS Capteur. Voilà. Eh bien, bonne fin d'après-midi à ceux qui nous quittent et à tout de suite pour les autres. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.